Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On commence ce matin une série sur les matériaux vedettes de l'éco-construction. Le bois, la terre, la paille. Mais plutôt que de parler une fois de plus de leurs innombrables qualités qui sont désormais bien connues des auditeurs, on a choisi de vous présenter plutôt des portraits de passionnés qui aiment l'un le bois, l'autre la terre, le troisième la paille. Et vous verrez que dans ces portraits croisés, le matériau et l'homme se rejoignent. Tout au long de cette série, c'est Yvan Saint-Jour qui nous accompagnera. Yvan Saint-Jour qui a fondé le magazine La Maison Écologique et qui partage cette passion pour tous les matériaux de l'éco-construction. Yvan Saint-Jour, on démarre ce matin une série sur les matériaux de construction. La terre, le bois, la paille, une série assez particulière puisque les personnages que nous allons rencontrer sont des personnages un peu atypiques, même dans ces milieux atypiques que sont les milieux de la construction dite alternative. Ça vous fait rire, alternative, puisque le bois, ça serait, dites-vous, le matériau le plus ancien avec lequel on a commencé à construire ?
Oui, je pense que le bois, avant l'arrivée d'Homo sapiens, donc c'est-à-dire ça remonte à plus de 200 000 ans maintenant, a été le matériau avec lequel on a commencé à construire les premières huttes, donc les premiers abris, hormis bien sûr les grottes, mais ça, ils ne construisaient pas les grottes, ils habitaient juste dedans. Et donc les premiers abris, quand il y avait des déplacements, ils étaient plutôt faits en branches. Donc on avait des espèces de huttes assez rondes, hein, en règle générale, et ça permettait de, d'être dans un abri, entre guillemets, artificiel, c'est-à-dire que les bêtes sauvages restaient à l'extérieur.
Mais qu'est-ce qu'on peut savoir de ces abris en branchage? J'imagine qu'il n'en reste pas grand-chose.
C'était vraiment du sommaire et du rudimentaire qui a été quand même beaucoup repris après par les peuples premiers. Donc il y a encore énormément de peuples premiers qui construisent des abris quand ils partent en saison de chasse, en saison de pêche ou de cueillette, qui vont construire des petits abris en végétaux. Et le bois, c'est la petite charpente, c'est la petite ossature, la petite structure.
Et le bois, si on y pense maintenant comme un matériau de manière plus large, on quitte l'Antiquité, la préhistoire et les peuples premiers, parce que c'est un matériau qui a été extrêmement utilisé un peu partout dans le monde, partout où il y avait du bois.
Oui, c'est même un matériau qui a été trop utilisé parce que avant la France, enfin on va parler de la France, mais c'est pareil pour l'Europe et le monde entier, mais était quand même recouvert de forêts. Et du coup, on faisait un prélèvement de bois un peu trop intensif. Je sais plus combien il fallait de chênes, d'arbres, donc là, essentiellement du chêne pour construire une coque de bateau, mais c'était phénoménal. Et je me souviens avoir entendu dire que sur le plateau du Larzac, par exemple, dans le sud de l'Aveyron, qui était recouvert de chênes et de hêtres, donc il y a 500 ou 600 ans, a été entièrement déforesté pour construire que quelques navires. Et après, en plus, comme ils jouaient à la bataille navale, ils arrivaient à en courir quand même 40 dans la journée. Donc c'était un peu du gaspillage. Mais oui, le bois dans la construction, c'est vraiment l'élément clé, l'élément essentiel. Et c'est même celui qui a fait naître un peu le mouvement de l'éco-construction, de la construction écologique alternative, parce que finalement, les charpentiers, tous ceux qui travaillent de façon à l'ancienne, il n'y avait aucun traitement. Et on assemble des morceaux de bois et hop, on construit une charpente, on va construire du poteau poutre et puis après on remplit en ce qu'on veut. Mais au moins on a déjà une structure saine, très solide et faite en bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le bois a été vraiment le matériau essentiel de la construction écologique, ou on va dire plutôt le premier matériau de la construction écologique, ça a été aussi un matériau, à l'inverse, qui a été un matériau complètement anti-écologique. Parce qu'à partir du moment où on traite du bois, on transforme une poutre, un poteau, une pièce en bois, on la transforme en déchet à traiter, à retraiter, un déchet toxique. On a même poussé le bouchon jusqu'à faire, donc il y a quelques années maintenant, ça s'est arrêté, il y a une législation dessus, mais le fameux traitement au cuivre chrome-arsenic, le CCA, ça faisait cette couleur verdâtre qu'on voyait sur les bois, qui était soit des fois du bardage, de la terrasse, ou même dans les jeux, dans les parcs pour enfants.
Ben oui, parce que vous en parlez au passé, mais on a vraiment des images très nettes de ces bois verdâtres, en effet.
Oui, alors le traitement continue, et donc c'est le cuivre qui donne cette couleur, qui donne la coloration, donc le traitement continue, mais sans l'arsenic. Voilà, c'était il y a quelques années, où suite à une... Enfin, c'est pas suite, il y a eu plusieurs choses qui ont été un peu le facteur déclencheur, mais notamment un couple qui était passé en procès parce que lui avait été accusé par elle de l'avoir empoisonné à l'arsenic. Et en fait, après quelques recherches, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient fait la veille, et les 2-3 jours d'avant d'ailleurs, un barbecue avec des restes de planches traitées au cuivre chrome arsenic. Et effectivement, la femme était complètement empoisonnée par l'arsenic. Donc oui, le passé, parce que ça y est, ça, on va passer à autre chose là-dessus. Il y a encore des traitements qui existent, bien entendu, et qui rendent donc le bois complètement impropre après à la réutilisation.
Il y a ça, et puis il y a toutes les façons dont on a transformé le bois, justement à l'aide de colle, de produits, enfin je pense à tout ce qui est le contreplaqué, le lamellé-collé, enfin c'est surtout ça aujourd'hui le bois.
Ouais, c'est vrai qu'il y a, beaucoup de produits de bois qui sont soit effectivement du contreplaqué, de lamellé-collé. Ouais. Ça a permis d'utiliser des bois qui ne sont pas des bois d'œuvre et de les utiliser pour en faire des vrais bois qu'on va utiliser dans la construction. Alors, l'avantage que ça a, c'est qu'effectivement, on utilise donc du bois qui n'est pas fait pour ça à l'origine. Le problème, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, on a utilisé des colles bourrées de formaldéhyde et de saloperie, et ça a été vraiment, ça a été assez délirant. Bon, on pourrait aussi parler du bois exotique qui a été, et encore d'ailleurs, un phénomène assez incroyable de pouvoir prendre des bois qui sont dits imputrescibles dans les pays du Sud pour pouvoir les utiliser à faire, nous, nos jolies terrasses, nos jolies tables et nos chaises.
Là, vous évoquez deux problèmes qui sont différents et qui sont chacun assez importants, puisque le problème du formaldéhyde, c'est que ça continue à se diffuser pendant des années. Et donc, c'est un problème de pollution et de santé, quoi, santé publique. Le problème des bois dits exotiques, des bois imputrescibles, c'est que c'est la déforestation qui est à la clé de ça.
Alors oui, mais en fait, les deux sont liés parce qu'on utilise beaucoup de bois exotiques pour faire du contreplaqué, donc c'est pour ça. Bon, le bois exotique, nous, on le voit souvent dans du mobilier de jardin, parce que c'est le bois imputrescible qui va rester dehors, etc. Mais la réalité, c'est qu'il est encore très très utilisé dans le plaquage des contreplaqués. Alors effectivement, il y a ces deux problèmes, le problème de la colle et donc de comment on va retraiter ce bois-là qui n'est plus devenu, qui n'est plus du bois, voilà. Et puis l'autre problème du bois exotique où là on va déforester, on va faire des coupes à blanc ou des coupes très, très 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 mal gérées dans des pays en saccageant complètement la biodiversité, hein, et quand c'est pas bien sûr les populations locales qui vont avec. Et puis après, en ramenant ce bois dans des avec des bateaux pour pouvoir les amener sur les zones portuaires et après retravailler ce bois-là. Alors qu'en fait, on a, nous ici, en France, en Europe, toutes les essences qui sont bonnes pour pouvoir construire en extérieur sans aucun traitement. On a fait la part belle à l'épicéa et à tout ce qui est conifère parce que ça pousse très vite. Et puis, on peut avoir du bois d'œuvre très rapidement. Voilà, un bois qui est pas très très bon, mais qui suffit. Et puis quand on l'a foutu dans son bain de traitement, et ben voilà, ça va durer le temps que ça durera. Mais historiquement, on a toujours construit en châtaignier, en chêne, en mélèze, qui sont des essences qui ne nécessitent aucun traitement. Récemment, ça fait quelques temps quand même, mais on a introduit aussi le Douglas en France, qui est un pin qui pousse assez vite et qui est un pin dit de classe 3, donc qui résiste en extérieur. Voilà, on a vraiment un choix de bois, l'acacia aussi, le robinier faute acacia, qui est une superbe essence pour l'extérieur. Donc on a vraiment un choix de bois qui est largement suffisant. On n'a pas besoin d'aller déforester et prélever de façon assez horrible dans les autres pays.
Mais largement suffisant vraiment, Yvan Saint-Jean, parce qu'en vous écoutant, je me demandais si finalement c'était pas une mauvaise idée de construire en bois. Le bois, ça a une certaine aura dans la construction, dans le domaine de la construction. Construire en bois, ça a quelque chose de noble, de beau. Mais à vous entendre, la déforestation a commencé dès les temps les plus reculés. Elle continue aujourd'hui dans d'autres contrées. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la construction en bois? Alors, celle qui est évidemment saine, propre, bien faite.
C'est sûr, c'est une vraie question. Alors la forêt française continue de croître parce qu'elle a été gérée assez intelligemment en partie, on va dire. Et des grosses bêtises de fait, mais en fait, elle a quand même été gérée depuis plusieurs siècles. Donc elle continue de croître. Mais effectivement, si on utilise du bois tout le temps, et des grosses pièces de bois, on peut se poser des questions quand même sur la durabilité du matériau. Alors bon, voilà, il y en a certains qui vont arguer sur le fait que comme ça... que ça capture et que ça fait un stock de carbone, et ben voilà, c'est vraiment génial de construire en bois. Oui, mais enfin, c'est sûr que le chêne, le châtaignier, qui ont des croissances, enfin, surtout le chêne, qui ont des croissances assez lentes, il va falloir quand même essayer de le gérer au mieux. Voilà. C'est vrai que, pour moi, le bois, ça reste un morceau de la construction très noble, qu'il faut utiliser avec parcimonie, et vraiment là où on ne peut rien d'utiliser d'autre, en fait. Donc si on construit en terre, en paille, en d'autres matériaux, eh bien on va utiliser ce bois pour faire un poteau à un endroit, pour faire bien sûr la charpente si c'est une charpente classique, les fenêtres, voilà, ça c'est l'idéal. Mais après, eh bien, si on pouvait éviter le bois, c'est pas plus mal non plus.
Voilà. Et on le réserverait à quoi alors ?
Eh ben c'est ça, donc vraiment aux parties...
Oui, mais en dehors de la construction.
Ah, en dehors de la construction, le bois...
Oui, parce que tout de même, un des problèmes qui pèse aujourd'hui sur les forêts, c'est le risque de les voir partir simplement en bois de chauffage, ce qui n'est pas non plus ce qu'on peut souhaiter pour une belle forêt qui a été bien entretenue.
Ouais, ça c'est assez incroyable, mais c'est vrai que ça peut vite partir en fumée. Moi, je pense que vraiment le bois d'œuvre devrait rester un bois fait pour... Voilà, les pièces que je citais précédemment. Ensuite, on pourrait effectivement avoir des forêts à croissance très rapide qui sont, elles, des forêts destinées au chauffage, comme on en a qui sont destinées exclusivement à la pâte à papier. Hein. Le papier aujourd'hui, en tout cas en Europe, provient vraiment de forêts qui sont extrêmement bien gérées maintenant, hein, qui sont vraiment faites pour ça. Mais voilà, c'est sûr que si tout le monde se chauffe au bois demain, alors même si on interdit la cheminée, ce qui est le cas, on interdit les foyers ouverts et les poêles à mauvais rendement, ça pose des questions. Voilà.
On va rejoindre Fred Grousset pour voir des utilisations peut-être plus, enfin certainement, plus astucieuses et belles du bois. Grousset, ça a commencé comment pour vous ? Ça a commencé par les arbres, par la forêt, par le bois ?
Pas du tout, c'est-à-dire ça n'a pas du tout commencé par l'arbre, la forêt, le bois, ça a commencé par la mécanique. Ma venue dans le département, elle fait suite au fait que j'ai navigué, enfin pas navigué, mais je suis allé un peu partout en France et en Allemagne, beaucoup, à cause de parents qui était notamment dans l'armée. Donc on est resté un an là, un an là, un an là, un an là. Et dans le Lot, quand j'y suis arrivé, je me suis dit, mais je bouge plus. Je reste là, quoi. C'est là que je vais trouver quelques racines. Ça, c'est le début de l'histoire. Je me dis, je me pose là, et je... amoureux de la terre depuis mes 10 ans, ou peut-être avant. Mais c'est là que je me pose, quoi. Et là-dedans, je vais faire quelque chose. Donc j'ai... acheté une maison, bâti la maison comme tous les autres ici dans les années 80. Mais c'est là que je vais faire mes racines. En fait, j'ai dû travailler à droite à gauche, en charpente notamment, puis en mécanique. Et voilà, on commence à la mécanique et pendant une dizaine d'années. Et après, ce vieux retour à la terre que je voulais faire, moi, c'est-à-dire cet attachement à la terre et trouver ces racines-là, je l'ai fait à travers le débroussaillage du chemin. Au début, débroussailler des chemins, et puis voilà, on ouvre. Cette forêt ne respire pas, on ouvre, on circule dedans, on va voir ce qui s'y passe. Mais de là, en fait, j'habite devant une forêt, qui est la forêt de la Brogne, sur Canaille du Causse, dans le département du Lot. Et donc c'est un milieu de Causse, et puis d'un énorme lapiaz, qui est un lapiaz voulant dire une accumulation de roches, un chaos calcaire, des gouffres, et puis là-dessus, une forêt. Qu'on a du mal d'ailleurs à qualifier de forêt, parce qu'elle ressemble plus à une petite futaie ou à un taillis, puisqu'elle est, elle est composée essentiellement de chênes, pour 90%. Et là-dedans, je m'y engouffre dans un chemin qui est complètement embroussaillé. Et de là, je me dis, mais ce serait quand même pas mal de le débroussailler pour aller d'un point à un autre. Et puis, voilà, je m'y mets. Je prends ma tronçonneuse, ma débroussailleuse, et puis je coupe tout. Je coupe pas tout,
Attention.
Je paysage le chemin. Je paysage mon chemin, celui qui part de ma maison, qui va dans la Brogne. Et puis, la commune, à l'époque, cherchait un cantonnier municipal. Je me suis dit, ah, super, je vais leur demander de l'être. Et la mission qu'ils me proposent, c'est de débroussailler pas mal de chemins dans la forêt de la Brogne. Et je dis, ok, là, du coup, ils me payent une tronçonneuse, une débroussailleuse, et me demandent de faire un travail de nettoyage de ces chemins-là. Et là, ça devient absolument super, parce que c'est relié des points à d'autres points, notamment des fermes à d'autres. Et là, ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 50, c'est que ces chemins-là sont complètement fermés. Entre deux fermes. Ils se sont fermés entre deux fermes dans la mesure où la ferme qui avait des terres autour utilisait ces terres-là et pas plus loin. Et l'autre ferme qui était à l'autre bout du chemin utilisait les terres qu'il y avait autour de chez elle et pas plus loin. Et donc le chemin se ferme entre les deux. Et donc il n'y a plus de communication. Et là, je vois essentiellement le rapport avec la mécanique. C'est-à-dire que si c'est complètement bouché entre les deux, le moteur ne marche pas. Donc c'est essentiellement une approche et artistique, je vais dire, parce que même si on débroussaille, on a une tronçonneuse, une débroussailleuse, on fait de l'architecture dans ces chemins, et une approche de compréhension de la façon dont, pourquoi ce chemin est là, qu'est-ce qui va l'emprunter, qui l'a déjà emprunté, parce que je vais rencontrer des gens qui l'ont emprunté, des vieux qui allaient à l'école avec, à travers ce chemin-là. Et là, ça devient très intéressant, surtout que dans ce chemin, il n'y a pas qu'une essence de bois, il y en a 40. Et de là, des 40, je les découvre parce que à la tronçonneuse, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont verts, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont très très blancs. Et de là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est déjà? Donc je demande à droite à gauche, qu'est-ce que c'est? Et puis je fais des petits tas dans les chemins, et puis je m'en sers pour chauffer au départ ma maison. Et puis je me dis, mais ces bois-là, on devrait pouvoir en faire autre chose que d'en faire simplement des bois de chauffage ou les laisser pourrir en tas à des endroits. Donc un jour, j'ai un copain qui me prête un tour à bois et je me mets à tourner du bois. Et là, je découvre je découvre surtout l'intérieur de ces bois-là. Et ça devient absolument génial d'être dans l'intimité de ces bois-là. Et je découvre quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est que la mécanique n'apportait aucune créativité, puisque c'est une figure imposée, alors que là, un bout de bois, même s'il est rond, demande à ce qu'on extrait de soi-même une qualité artistique. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai été confronté à ce genre de problème. Et donc j'ai transformé 40, 60, 70 essences de bois avec des formes différentes et etc.
Comment est-ce qu'on choisit justement le tracé d'un chemin où vous avez essayé de rester précisément sur les anciens chemins? Vous avez choisi en fonction d'une perspective qui tout à coup vous apparaissait belle, ou alors d'un lieu ou d'un virage dans lequel vous aviez envie de sauver un arbre, ou je ne sais pas.
Dans le Causse, les chemins sont imposés par les murs en pierre sèche et on n'a pas vraiment le choix.
Ils sont toujours là, les murs?
Ils sont toujours là. Il n'y a pas d'énorme espace, sauf dans les terrains communaux de la commune. Mais sinon, il n'y a pas d'énorme espace et les chemins sont contraints par les murs à droite à gauche. Ce qui permet de travailler une architecture dans ces chemins, c'est les végétaux. C'est-à-dire, ça va être les arbres qui vont dépasser d'un côté, qui vont être pliés, qui vont faire qu'on va pouvoir un peu délirer sur l'architecture de ce chemin-là. Et notamment dans l'abandon, se passe quand même pas mal de choses, parce que tous les... Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, par exemple, mais qui sont repartis. Et ces arbres-là donnent des inflexions dans le chemin qui, lui, est tout droit, bien dessiné, et bordé de murs en pierre sèche. Au niveau écologique, on peut tout couper dans un chemin. C'est pas bien grave, parce que de toute façon, de l'autre côté du mur, il y a exactement la même chose. Donc, on va pas... Mais c'est simplement au niveau du respect même de l'histoire et des essences de bois et des formes des arbres qu'on va trouver des choses intéressantes.
Oui, parce que vous parliez d'architecture quand même, donc il ne s'agissait pas simplement de rouvrir ce qui s'était refermé.
Il s'agissait quand même de rouvrir ce qui s'était refermé.
Oui, mais pas seulement.
Mais pas seulement, non. Et dans la forêt, dans les chemins, surtout pour revenir aux chemins, il y avait des choses intéressantes, c'est que la greffe était quelque chose qui était pratiqué de tout temps, puisqu'on n'avait pas besoin de faire un trou, on se passait des greffons, puis on greffait sur les arbres. Et là, je pense que c'est quelque chose à remettre au goût du jour, parce que ça fait partie justement du fait qu'on n'ait pas besoin de trous à faire, de la connaissance des porte-greffes et de la connaissance aussi de la façon de greffer, etc. Ça, c'est à remettre au goût du jour pour connaître sa place dans l'environnement qu'on a. Pas beaucoup de terre, pas de trous à faire, les arbres sont en place. Et par la suite, mais alors là, j'ai peut-être encore trop vite, mais par la suite... Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de travailler sur les communautés de canailles du Causse, puisqu'on a travaillé dans les années 95 à la réouverture de milieux sur canailles du Causse. Et là, j'avais une équipe de 10 personnes à encadrer. Et donc, quand on met 10 personnes avec des tronçonneuses et des débroussailleuses, eh ben, on a 10 résultats différents d'architecture de ce chemin. C'est-à-dire, les gens ne laissent pas ça, trouvent que celui qui penche, il est pas beau, donc il faut le couper, ne laisse pas tel ou tel arbuste parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, il y a réellement un travail d'éducation à faire auprès de ces gens-là, leur dire simplement comment s'appelle cet alisier terminal, parce que c'est un alisier terminal, et à quoi il sert, et quel fruit il a, et quel bois il aura. Donc, tout ça, c'est très important. Et en même temps, c'est faire le relais, parce que je me suis bien aperçu que dans les années 80, on avait une population agricole qui ne connaissait plus du tout les arbres. Et ça, c'est un constat que j'ai fait au fur et à mesure, parce que venant de la ville, je m'attendais à ce que des gens me disent « mais ça, c'est un alisier terminal ou c'est un arbre cathartique » parce qu'ils vivaient dans leur milieu. Sauf qu'ils avaient été complètement dépossédés de la connaissance par leurs parents notamment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu ce relais puisqu'on n'avait plus aucune utilité de ces arbres-là. Donc on ne connaissait plus ça.
Et ce qu'on ne connaît pas, on l'abat.
Ce qu'on connaît pas, on l'abat. Ce qu'on connaît, on l'abat aussi. On abat tout ce qui se trouve sur le terrain pour en faire du bois de chauffage. Point. Mon bois, par exemple, de tournage, je le récupère souvent dans les chemins ou dans les débroussaillages que je fais encore. Mais je le trouve surtout dans les tas de bois de chauffage que font les gens. C'est-à-dire que je sais lire à peu près un tas de bois de chauffage où il va y avoir de l'érable de Montpellier sur la gauche, puis du nerprin cathartique sur la droite, puis je le lis parfaitement. Et donc je vais voir le bûcheron, je lui dis mais ça c'est pas la peine de le brûler, moi j'en fais ça, donc j'apporte des pièces en leur montrant ce que je fais avec. Et là il me donne quasiment en règle générale les bûches qui permettent de faire ce genre d'objet.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les communaux, Fred Grousset ?
Ben, les communaux, c'est une expérience écologique intéressante, mais socialement énorme. C'est-à-dire que les communaux, c'est 250 hectares sur la commune de Cagnac, qui sont des terrains privés de la commune de Cagnac-du-Causse, mais communal, où tout le monde peut aller faire brouter leurs troupeaux. Et en fait, ces communaux se fermaient totalement, c'est-à-dire était envahi de genévriers et de cornouillers, complètement envahi, complètement fermé. Donc on en a fait ce qu'on appelle des pelouses sèches, c'était des landes sèches au départ qui se fermaient, on en a fait des pelouses sèches, c'est-à-dire qu'on a réouvert environ, on a débroussaillé 80% de ce qu'il y avait sur les communaux. Tout ça au profit d'orchidées et puis d'oiseaux nichés au sol. Les communaux, c'est 10 personnes qui ont travaillé pendant 2 ans à la main pour couper tout ça. Puis après, on a fait des interventions mécaniques, tracteurs, etc.
Pourquoi à la main ?
À la main, parce qu'au départ, on n'avait que ces moyens-là. Donc, c'était de faire des drails, c'est-à-dire des chemins, mais des chemins dans des espaces. Et là, on n'avait plus la contrainte des murets, on avait des espaces, les troupeaux devaient circuler et on devait couper une largeur de 4-5 mètres pour que les troupeaux circulent. Donc, ce qui était important, c'était le sol. Pour que les troupeaux circulent, ils n'allaient pas circuler sur des cailloux. Donc, c'était le sol, la lecture du terrain, et puis le débroussaillage, et puis même, encore une fois, l'architecture dans ces chemins qui étaient un préalable à l'ouverture. Et puis, donc une équipe formidable pendant 2 ans, des gens totalement différents, et surtout une approche des gens de la commune qui était assez intéressante, puisque les communaux, par essence, ça ne vaut rien. Et par essence, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, puisque abandonné, c'est un terrain de chasseurs, notamment, un terrain qui a pas de richesse agricole. Donc au départ, ça sert absolument à rien. Et puis toute l'explication des intervenants écologiques sur ces terrains-là consistait à dire que si on les ouvre, c'est à cause du pigriage écorcheur et d'orchidées. Mais tout le monde s'en fout des orchidées, tout le monde s'en fout des pigriages, tout le monde. Et en fait, là-dedans, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'amener cette connaissance qu'ils avaient perdue, parce que ça soit le dyknème criard qu'on essayait, donc un oiseau tout à fait spécifique que tout le monde au fond connaît par son bruit, mais le dyknème criard, ça veut pas dire turlu en patois, et le turlu tout le monde le connaît, mais le dyknème personne le connaît. Donc il y avait une espèce de
mais tout cet amoncellement que vous êtes en train de décrire, Fred Grousset, de connaissances qui existaient sans qu'on le sache, ou alors qui avaient complètement disparu, tous ces chemins, toutes ces drails que vous avez recréés, cette fois inventés, dans des terrains qui étaient totalement embroussaillés. Enfin, on voit le paysage s'ouvrir, on voit des chemins se dessiner, mais qu'est-ce que ça a amené, finalement, dans le pays ?
Ça a apporté dans le pays une réappropriation du terrain. C'est-à-dire que les communaux se fermaient tellement qu'il n'y avait plus de drails, il n'y avait plus tout ça. Donc on a réouvert des drails et on a refait des chemins dans des espaces où on arrivait par exemple à des lacs, des petits lacs du Causse. On a réouvert des endroits, on a redonné du paysage là-dedans, on a redonné une lecture du paysage et une réappropriation des communaux pour les gens de Cagnac. Ça, c'était très important parce que si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, effectivement, ce serait devenu une forêt de chêne pubescente de plus dans les 70% dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une diversité de paysages. Socialement, c'était une expérience très, très intéressante parce que les communaux, tout le monde y a droit. Tout le monde a son mot à dire. Ça appartient à tous, donc c'est des discussions permanentes. Eux, au départ, considéraient donc les communaux comme impropres à la consommation, même pour les brebis, enfin le pâturage, pas beaucoup d'herbes, rien du tout. Aujourd'hui, ils se battent pour avoir un bout de communal. Donc c'est une évolution en 20 ans qui fait que dans la mouvance même des jeunes agriculteurs qu'il y a aujourd'hui, il y a plus quand même d'intérêt, de connaissance qu'il y en avait il y a 20 ans. Et donc, si aujourd'hui on parle à un agriculteur d'un dyknème, il saura ce que c'est et il s'y est intéressé. Donc ça, on a plutôt réussi de ce côté-là. Grâce à 2 femmes notamment, j'ai appris la botanique. Et donc j'ai dû refaire des balades botaniques au profit de gens qui voulaient se balader. Et en fait, dans la balade botanique, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on peut citer 450 noms de plantes. Ça sert absolument à rien, puisque au bout de la 10e, les gens ont commencé à oublier tout. Et ce qui est important, c'est dans la balade botanique, c'est de faire 3 pas, et dans les 3 pas, de citer une dizaine de plantes, et de travailler l'histoire de ces plantes-là. Et là, les gens vont complètement mémoriser ces plantes-là. C'est-à-dire que si on dit que cette plante sert à tel et tel usage, si on a une histoire qui est lié par exemple à de la médecine populaire sur cette plante-là, à ce moment-là, les gens vont le retenir énormément. On a par exemple une plante de forêt ici qui s'appelle l'hélébore fétide. Et cet hélébore fétide, on va la citer, on va paraître quelqu'un de très érudit, mais c'est une bêtise parce que elle s'appelle l'hélébore fétide, mais c'est surtout quelque chose qui servait aux bergers à soigner leurs moutons. Et si on raconte toute l'histoire de l'hélébore fétide, ce sera porteur à connaissance. Le nom, à la limite, on s'en fout.
Les gens sauront de toute façon la reconnaître.
Les gens sauront la reconnaître, mais grâce à l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire fait qu'on reconnaîtra la plante.
C'est ce que vous disiez aussi sur les oiseaux tout à l'heure, qu'on ne connaît pas sous leur nom savant, mais si tout à coup on dit le turlu, ça parle.
Voilà, le turlu est le nom occitan de le nickname criard. Le nickname criard a fait partie des programmes environnementaux sur le Quercy, mais ça ne parlait à personne. Alors que le turlu parle à tout le monde, il s'appelle aussi le trompe-pastre, donc ce qui veut dire que ça va tromper le berger parce que ça va siffler. Et ça, tout le monde le connaît, sauf que le nom ne leur dit absolument rien.
Et vous en servez des noms, finalement ?
Je préfère parler du turlu quand je suis en face d'un agriculteur du coin ou de quelqu'un du coin que de le nickname. Et quand je suis en réunion sur des trucs bien techniques, on parle de le nickname, mais par exemple au niveau des noms, il y a des choses très intéressantes. C'est même si je viens de dire que c'était pas important, mais il y a des noms qui sont des noms beaucoup plus musicaux que d'autres. Par exemple, on a affaire à une essence d'arbre qui s'appelle le cerisier de Sainte-Lucie, qui est déjà un très beau nom, mais qui en latin s'appelle le Prunus Mahaleb. Et Prunus Mahaleb, ça sonne beaucoup mieux chez moi que cerisier de Sainte-Lucie. Et quand je le nomme, je dis toujours le Mahaleb. Et j'ai l'impression d'être un érudit, mais pas du tout. Je suis un musicien plus.
Où est-ce que ça vient, ce mot Mahaleb ?
Mahaleb, je pense que ça vient d'une province de Turquie, où en Turquie, on utilise les noyaux pour faire de la cuisine. On les broie et on fait de la cuisine avec. Le mahaleb, c'est surtout une plante qui contient de la coumarine. Coumarine, c'est une composante volatile qui a un parfum très vanille, très miel, très foin coupé, etc. Et en fait, c'est depuis un moment, je travaille par exemple sur créer de la poudre, donc scier du mahaleb, pour en créer de la sciure dont on va fumer et les viandes, et les poissons, et tout ce qu'on a envie de fumer pour avoir ce goût de coumarine à l'intérieur de nos viandes.
Vous avez essayé déjà ?
J'ai pas essayé en fumée, c'est-à-dire de la viande fumée à coumarine, j'ai pas encore essayé. J'ai essayé simplement en parfum de maison, c'est-à-dire en encens, et c'est un truc assez fabuleux.
Il y a plusieurs parfums possibles dans les bois ?
Ah, il y a beaucoup de parfums dans les bois. Il y a des bois, comme l'érable de Montpellier, qui a vraiment un parfum de sucre terrible. C'est-à-dire qu'en tournage sur bois, on s'aperçoit que, par exemple, que le cornouiller mâle, quand on le tourne, on a vraiment l'impression de tourner un concombre. C'est quelque chose d'assez incroyable, mais il a une odeur de concombre. Alors, on a des bois qui sentent absolument rien, il y a des bois qui puent, vraiment, qui sont franchement désagréables. Il y a des bois comme, alors là, une surprise d'un jour, c'était des racines de chèvrefeuille. Et la racine de chèvrefeuille, enfin, je vais parler des racines de chèvrefeuille parce que sur le Causse, on a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que tous les arbres font une espèce d'excroissance sous la terre, qui est souvent sous la forme d'une boule, et une espèce de réserve qui leur permet de pallier à toute hausse de température, sécheresse, coupe, etc. Donc une espèce de réserve. Et le cornouiller en fait partie, hein, les cornouillers mâles notamment, mais le chèvrefeuille énormément. C'est-à-dire qu'il fait au pied une boule. Et ça, j'ai tourné ça un jour et je me suis aperçu que j'avais un battement de cœur excessif. Et que j'ai dû arrêter, que j'ai recommencé plus tard avec un masque, avec tout ce qu'il faut pour tourner cette racine de chèvrefeuille. Le bois est sublime. Le bois est vert, jaune, blanc, il est moiré, il est splendide. Mais on s'aperçoit là qu'on a affaire pas du tout à un bout de bois, mais quelque chose de très vivant et de très impactant sur notre vie. Soit c'est les effluves et son odeur, soit c'est au contraire le côté désagréable de ces odeurs-là qui vont nous faire dire que là-dedans, il existe toute une vie et quelque chose d'important, quoi. Il y a un arbre qui est absolument fabuleux, enfin, que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a un arbre qui, j'en ai parlé deux ou trois fois au cours de ce temps, mais...
La lycée terminale ?
Non, c'est le nerprin. Je vais reparler du nerprin parce que c'est un arbre, un arbuste, hein, qui peut devenir un arbre. Parce qu'on parle d'arbre à partir de 5 mètres, il peut faire 5 mètres. Et c'est un arbre qui vit sur l'Écosse, sur du caillou, sur vraiment un substrat très sec. Il fait maximum 4 cm, 5 cm dans les bois. Mais c'est un des seuls arbres que je connaisse qui puisse vivre totalement les pieds dans l'eau. Mais totalement, c'est-à-dire qu'il est complètement immergé quasiment tout le temps et il a ces deux casquettes-là. Soit c'est très humide et il y vit très bien, soit c'est très sec et il y vit très bien aussi. Et en le tournant, c'est un arbre qui est jaune citron quand on le coupe frais, qui dit qu'il va devenir rouge, mais qui va s'oxyder à l'air et devenir bleu. L'oxydation va naturellement partir une fois que le bois sera sec, mais quand on le tourne, on va sortir des copeaux jaunes et on va laisser la pièce à l'air et elle va devenir bleue. C'est absolument superbe.
Tracer des chemins, tourner du bois, et puis vous avez encore une autre carte dans votre manche. Vous travaillez également à des charpentes tout à fait étonnantes, Fred Grousset.
Oui, ce qu'on a fait, quand je parle de on, c'est un collectif. C'est-à-dire qu'on on a repris il y a à peu près 3 ans un atelier qui menaçait de fermer, et un grand atelier à Acier, donc dans le département du Lot, où on s'est réunis entre sculpteurs, tourneurs, menuisiers, ébénistes et charpentiers, au sein d'un collectif qui s'appelle l'Ami Bois d'Acier, et on parle beaucoup de bois. On parle beaucoup de bois parce que on réalise tout un tas de choses, mais surtout on commence à parler de bois local et qu'est-ce qu'on peut faire de ce bois local, parce que la question quand même se pose, pourquoi il a été abandonné, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, qu'est-ce qu'on pourrait inventer de nouveau avec ce bois-là, comment on pourrait d'une autre façon mieux gérer la forêt parce que on gère mieux la vente de ce bois-là. L'Ami Bois d'Acier, c'est né assez rapidement avec ce regard qui est franchement très intéressant de la menuiserie, c'est-à-dire de tout ce que peuvent faire les gens avec du bois, le regard de chacun, c'est-à-dire qu'un charpentier va travailler une pièce de bois et le menuisier va avoir un regard dessus et la chute de bois va être tournée par le tourneur sur bois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité du travail du bois qui est assez formidable. Après, je dois dire que mes activités dans la Brogne ou même à l'atelier ont été des activités un peu solitaires et que je suis pas du tout solitaire et que je me suis aperçu que je restais coincé dans mon atelier avec cette création, avec ce bois et que j'avais besoin franchement de le partager. Et donc l'atelier partagé a été une occasion pour tout le monde, que ce soit les menuisiers ou les tourneurs ou les sculpteurs, de venir montrer ce qu'ils savaient faire, quel bois ils utilisaient, de parler d'un peu de tout dans cet atelier-là. On est arrivé à faire une charpente qu'on appelle les charpentes Philibert Delorme. Philibert Delorme étant un architecte de marine qui a un jour proposé une solution pour faire des grandes charpentes avec du petit bois. Comme le problème du cause, c'est d'avoir du petit bois, de faibles sections, on s'est mis à travailler ces charpentes-là.
Alors il est assez extraordinaire ce Philibert Delorme. Il est né au XVIe siècle, je crois, et il a écrit un livre qui s'intitule « De l'art de bien faire avec de petits moyens », je crois, ou quelque chose comme ça.
Bois, avec des petits bois. Il est absolument extraordinaire, Philibert Delorme, parce que il va créer des formes complètement différentes des formes classiques de charpente. C'est-à-dire que avant, et notamment dans le Quercy, on faisait des charpentes avec des arbres plus ou moins droits et qui poussaient sur les murs, alors que la charpente Philibert Delorme va avoir une poussée
vers la terre.
Vers la terre.
Ouais, ça appuie en fait sur les murs.
Ouais. Mais surtout, ça utilise des bois qui font au maximum un mètre. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut pour les bois d'Écosse.
Mais quand vous dites grande charpente,
ça peut être des charpentes qui font 13 mètres de portée.
Avec des bois d'un mètre ?
Avec des bois d'un mètre. Ouais.
En fait, ce sont des charpentes qui ont presque une forme de coque de bateau renversée.
C'est ça, ce charpentier a beaucoup travaillé sur les charpentes de marine. Et en fait, c'est une coque de bateau renversée. Et donc, c'est un développé circulaire avec des planches, des petits bouts de bois qui vont être mis en quinconce et suivre un arc de cercle. Et si on peut imaginer aujourd'hui à quoi ça ressemble, ça va ressembler à du lamellé-collé. En fait, c'est le préalable au lamellé-collé. C'est-à-dire que là, au départ, c'était du lamellé chevillé, puis du lamellé cloué, et puis maintenant, c'est du lamellé-collé.
Aujourd'hui, vous collez ?
Non, on colle pas. On pointe, mais on ne colle toujours pas. Là, on récupère des bois qui sont des bois de petite taille, et puis on les cloue ensemble, et puis on fait des charpentes qui peuvent faire jusqu'à 13 mètres de large, 15 mètres de large.
Pour quel type de bâtiment ?
Alors, tout bâtiment, c'est-à-dire qu'on peut créer des bâtiments agricoles, on peut créer des bâtiments de loisirs, des abris qu'on peut mettre au bord des chemins. Là, en l'occurrence, on a créé un bâtiment qui est un bâtiment énergétique, avec des capteurs solaires inclus dans la Philibert Delorme. Et voilà, on peut créer de toute forme.
Mais alors là, vous êtes exactement dans ce que vous recherchiez depuis toujours. Fred Grousset, vous disiez, ce qui est très important, c'est de travailler avec son environnement. Et le Quercy, ce sont des petits bois qui, jusqu'à présent, étaient soit pas utilisés, soit brûlés.
En fait, oui. Dans la complexité de la forêt, il y a la connaissance, il y a qu'est-ce qu'on fait dans cette forêt-là, mais que devient cet arbre-là? Et toute la question que je me pose aujourd'hui, c'est, voilà, on a un nerprin cathartique, personne ne le connaît, ou très peu de gens le connaissent, très peu de gens connaissent le bois qui est à l'intérieur, et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et c'est de là où part tout mon travail. On a quelque chose, on est dans un environnement, de ça, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Sans autant tout couper, tout raser. Non, trouver des solutions à plusieurs pour des bois qui n'auraient, si on se pose pas cette question, aucun avenir à part le bois de chauffage.
Comment est-ce que vous êtes retombé sur Philibert Delorme? Parce qu'il n'y a plus pratiquement de charpente Philibert Delorme, il y en a très peu.
Il y en a dans le département du Lot, il y en a beaucoup dans le département de la Corrèze. Mais Philibert Delorme, on y est venu parce qu'en fait, l'ancienne société auquel on a repris les ateliers, c'était beaucoup spécialisée dans les Philibert Delorme. Donc, de donner des Philibert Delorme modernes, c'est-à-dire essayer de créer des maisons avec une charpente Philibert Delorme. Ce qui donnait un des problèmes du département du Lot, c'est d'avoir aujourd'hui de très beaux villages, de très belles constructions, tout en pierre, très intéressante. Et aujourd'hui, on commence à voir venir toutes des constructions qui sont des constructions méditerranéennes de tout type, etc. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une alternative à quelque chose qui n'est pas de l'architecture. Et de créer cette alternative-là avec le bois issu des arbres qu'on aurait repérés en faisant des travaux de forestier.
Donc ça serait vraiment renouer avec une tradition locale aussi, c'est-à-dire on serait dans une architecture locale.
L'architecture Philibert Delorme, elle est ponctuée dans le département du Lot, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une dizaine de charpentes Philibert Delorme. Philibert Delorme a inondé la France de ses... partout. Mais très ponctué. Ça devait être du compagnonnage qui était effectué. En fait, des compagnons qui venaient, qui passaient d'une région à une autre, qui savaient faire de la Philibert Delorme. L'intérêt agricole de la Philibert Delorme, c'est l'espace de stockage qui est multiplié par 1,5 peut-être par rapport à une charpente traditionnelle.
Oui, parce que la voûte est entièrement libre, en fait.
Et elle est entièrement libre. Il n'y a pas un poteau qui gêne, il n'y a rien qui gêne. Et il y a un espace lié à l'arrondi qui fait qu'on a un espace de stockage beaucoup plus important.
Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas eu davantage alors à ce moment-là? C'est une architecture qui tient mal ou qui est compliquée à faire ou...
Elle n'est pas compliquée à faire. Je pense que c'est là où sont passés les compagnons qu'on a des Philibert Delorme. Après, je pense que même si Philibert Delorme date de 1561, je crois, je pense que c'est pas arrivé dans le Lot en 1500. Ça a dû arriver dans le Lot très tardivement. Ça correspond, Philibert Delorme correspond aux charpentes de toutes les coupoles qu'on voit un peu partout, à Lyon, à Paris. Et Philibert Delorme a fait énormément de très beaux bâtiments. Après, il a fait tout ce travail au profit aussi d'une demande du roi Henri II pour justement équiper ces zones rurales où il y avait peu de bois et de petites tailles pour répondre à une demande de grange et de stockage dans ces éléments-là. Mais dans le département du Lot, je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
En tout cas, on devrait le faire aujourd'hui.
C'est une des solutions.
Il y en a d'autres ?
Il y en a d'autres. Travailler avec son environnement dans le département du Lot, c'est travailler aussi avec la pierre. Et on a comme élément la pierre et le bois dans le département. On n'invente rien. Les vieux travaillaient avec la pierre et le bois. Ils ont fait toutes ces pauvres maisons qu'il y a ici à droite à gauche sont faites avec ce qu'on a ramassé dans les champs. Aujourd'hui, on peut pas enlever l'élément pierre. C'est pas vrai. Aujourd'hui, au niveau énergétique, oui, on va tenter de faire autrement que ce qu'ils ont fait. On a des moyens différents. On peut mixer le bois et la pierre. Aujourd'hui, on a du bois qu'on essaie de valoriser, et je pense que la meilleure valorisation du chêne pubescent, c'est des petites charpentes et des petites constructions. La Philibert Delorme étant une des constructions les plus évidentes.
Aujourd'hui, vous ne tournez plus, Fred Grousset. Pourtant, vous auriez pu devenir un artiste, tourneur sur bois.
Ben, je tourne plus parce que j'ai d'autres activités aujourd'hui, donc notamment l'ami Bois d'Acier, où il y a ce collectif, mais je tourne plus parce que je me suis ouvert à d'autres choses. En fait, une des choses importantes, je trouve, c'est que les gens... je me suis tourné vers l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre aux gens à pouvoir s'approcher d'un tour à bois et à pouvoir tenir une gouge et à prendre confiance en eux sous le regard de quelqu'un qui sait à peu près la tenir. Moi, ce qui est important, c'est presque une démarche politique, c'est d'essayer que les gens prennent confiance en eux et qu'ils puissent travailler de la menuiserie, du tournage, de la sculpture, qu'ils s'approchent des objets, qu'ils prennent des outils, des objets, et qu'ils prennent confiance en eux.
Politique ?
Ah ouais, quasiment politique, parce qu'on a vraiment mis les gens, moi je trouve, dans la consommation, ils achètent l'objet et ils partent. Là, et donc ils ont perdu toute confiance en eux dans la réalisation de ces objets. Si on prend le cas de quelqu'un sur le Quercy qui devait avoir des chaussures, il se trouvait un morceau de bois, un morceau de noyer, un morceau de d'aulne, et il taillait son sabot dans ce bout de bois. Aujourd'hui, on a besoin d'une paire de chaussures, on va au supermarché et on s'achète une paire de chaussures. Mais aujourd'hui, on peut tout à fait faire. Les gens ont perdu cette confiance en eux de savoir faire des choses. Et si je me suis un peu dérouté du tournage sur bois aujourd'hui, c'est que je me suis beaucoup lancé dans l'apprentissage du tournage, mais aussi dans...
L'apprentissage, vous voulez dire l'enseignement ?
L'enseignement, oui. L'enseignement du tournage sur bois, mais surtout l'enseignement par rapport aux gens, de leur dire « mais vous pouvez le faire, c'est possible ». S'il leur manque de la connaissance, alors à ce moment-là, on leur amène de la connaissance pour le choix du bois, pour l'objet qu'ils veulent réaliser. On leur apporte une confiance et un appui. S'ils veulent bâtir soit un abri, soit une maison, on va les aider là-dessus, mais c'est eux qui vont le faire. Et ça, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. C'est-à-dire, dans la forêt, c'est exactement pareil. Les gens disent ne pas connaître les bois, mais si on les met dans un chemin et si on leur demande de différencier des bois simplement sans nommer les bois, parce que c'est peut-être même pas la peine de les nommer les bois, mais simplement de relever les différences qu'il peut y avoir à droite à gauche parce que la feuille n'est pas la même, tiens celle-là, c'est pas... Simplement d'apprendre à regarder, c'est le plus important. Les noms, on s'en fout, à vrai dire, mais apprendre à regarder, c'est le plus important. Cette écorce-là n'est pas du tout la même que celle-là. Tiens, si je casse cette branche-là, il va pas y avoir la même odeur. Tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment réapprendre. C'est vraiment quelque chose d'important. qui est vraiment important, c'est de vraiment de travailler avec son environnement. C'est-à-dire de connaître, moi je suis un homme placé à un endroit et j'en bougerai peu, j'en bougerai pas je pense. L'histoire c'est de travailler simplement avec son environnement. Et ça m'intéresse beaucoup, c'est dans ma philosophie de vie, mais aussi c'est ce rapport mécanique à la chose. L'homme est dedans et il faut qu'il fasse avec ce qu'il a. Et il faut qu'il fasse quelque chose qui marche avec ce qu'il a. Et ça c'est très très important pour moi. Et je suis passionné par tout ça, même pour les gens des villes. Je trouve que je serais prêt à aller voir les gens des villes et à faire un travail sur leur environnement. C'est-à-dire que ça peut être le tour à bois qui est un support ludique, mais c'est de comprendre dans quoi ils vivent. Est-ce qu'il faut qu'on aille dans les poubelles chercher du bois? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir les services de la ville qui coupent régulièrement des arbres le long des avenues? Comment comprendre ce qui nous entoure? C'est surtout ça.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. La semaine prochaine, nous continuerons avec la terre et puis dans 2 semaines avec la paille. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Olivier Dupré, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.